les 150 ans de la Société des sciences, lettres et arts de Bayonne, société savante et personnalité régionale. Rencontre scientifique organisée par la Société des sciences, lettres et arts de Bayonne à l'occasion du 150e anniversaire de sa fondation, novembre 1873-novembre 2023, avec le concours de la ville de Bayonne. Les 150 ans de la SSLA à la Maison des associations de Bayonne, les 22 et 23 novembre 2023. Alexandre Mélissinos, révélateur du patrimoine bayonnais. Voici l'intervention de Jackie Cruchon, consultant en urbanisme et patrimoine de l'association Bayonne Centre Ancien. Alexandre Mélissinos, révélateur du patrimoine bayonnais, Jackie Cruchon.
Alexandre Mélissinos, là je l'ai intitulé révélateur du patrimoine, j'aurais pu aussi l'appeler passeur du patrimoine. En tout cas, c'est quelqu'un, en plus, c'est un ami, c'était un ami en tout cas. C'était un ami et...
Il y en a trop ?
Ah, là, ok, voilà. Et c'est pas forcément facile aussi de parler comme ça. Bref. Première présentation, c'est Alexandre est décédé en 2017, ça fait à peu près 6 ans jour pour jour. Et en 2019, lors du congrès de l'Association nationale, enfin de Cité Remarquable de France plus exactement, association à laquelle Bayonne est adhérente, Bayonne est vice-présidente, qui a accueilli cette association Bayonne pendant de nombreuses années au Châteauneuf. Cette association qui regroupe à peu près 300 villes et territoires en France et qui ont comme Bayonne un secteur sauvegardé, comme Bayonne son ville d'art et d'histoire. Donc c'était un congrès à Figeac et ce congrès avait pour objectif, a eu à un moment donné la volonté de rendre hommage à Alexandre qui a beaucoup travaillé à Figeac. Mais ce n'est pas par hasard si sont présents également le maire de Bayonne, parce que sans aucun doute, les deux villes dans lesquelles Alexandre a pris le plus d'intérêt, le plus d'investissement, le plus d'entente, je dirais, mais j'y reviendrai, c'est Figeac chronologiquement et Bayonne ensuite. J'y reviendrai parce que, effectivement, ce qu'a trouvé Alexandre dans ces villes-là, c'est une entente parfaite avec l'équipe municipale, avec les services, avec les opérateurs et quelque part. Si vous allez à Figeac, remontez Figeac il y a 30 ans, tout était gris, tout était enduit et aujourd'hui il y a du roman partout, voilà, donc, et du gothique partout. Donc c'est quand même quelque chose qu'il avait révélé. Alexandre, il a joué un rôle déterminant au niveau national. Sur l'élaboration des politiques nationales donc de préservation et de leur déclinaison au niveau du territoire. Il a travaillé dans de très, très, très nombreuses de villes de France, mais également à l'étranger. Ça a été aussi en France. Alors, Alexandre est né en Égypte. Il est un Grec. Il a gardé la nationalité grecque jusqu'à la fin, d'ailleurs. Il a été le premier architecte en France à considérer de manière nouvelle, les plans de sauvegarde de mise en valeur, donc ces documents de gestion des centres historiques protégés, en faisant des vrais projets d'urbanisme, des vrais documents d'urbanisme qui permettaient de remplir la même fonction qu'un plan local, mais aussi qui permettaient donc de développer la ville. Il en a fait pour Bayonne non seulement donc, ce révélateur du patrimoine, mais il a aussi à travers la définition du projet urbain qui a été élaboré conjointement avec les élus et les services, il a aussi montré et révélé comment ce patrimoine devenait un outil de développement. Son premier rapport, ce fut la connaissance de la ville, la connaissance de son épaisseur historique, de ses sédimentations progressives, hein, puisqu'on a des bâtiments dans le centre-ville où sur les façades, on peut lire plusieurs périodes de la ville, et ces transformations successives, cette évolution. C'est cette connaissance-là qui a servi de base au projet urbain. Vous avez là... Vous avez à l'écran, là, non seulement Alexandre, mais aussi chaque maison de Bayonne, chaque immeuble a été visité, a fait l'objet d'une fiche. En effet, il s'agit pas de conserver pour conserver. Hein, donc, si conserver la ville, ça ne veut pas dire qu'elle doit être inerte. De toute façon, qu'on le veuille ou non, elle se transforme, elle bouge, elle évolue, qu'elle soit protégée ou pas. Donc, l'objectif était d'accompagner ces transformations, de leur trouver un cadre, une cohérence, une espèce de conservation en mouvement, ou comment transformer pour préserver, comment protéger le patrimoine ordinaire, favoriser l'installation de fonctions de centralité, mais aussi, et c'est très très important, créer une offre nouvelle. Le projet pour les immeubles peut se résumer à quelques mots-clés, et ces mots-clés, on les retrouve dans la fiche qui est là, à l'écran. Hein. Le premier, c'est démolir. Paradoxalement, la démolition, ça a été la condition de la protection du patrimoine de Bayonne. Démolition partielle, j'y reviendrai, mais en tout cas, effectivement, c'était un mot-clé qui a étonné le ministère quand il a été prononcé, mais qui a toute sa valeur aujourd'hui. Restaurer le bâti conforme, techniquement, architecturement parlant. Restituer les éléments disparus, parce qu'effectivement, l'outrage du temps, les rez-de-chaussée, parfois les façades, des cages d'escalier, des parties de façades intérieures également ont été cassées. Et donc, retrouver une cohérence était important. Il y a aussi eu des évolutions qu'on comprend, hein, des surélévations, mais des choses comme ça, un peu intempestives. Il ne s'agissait pas de les supprimer. On en a fait au contraire un outil de valorisation, mais il s'agissait plutôt de les modifier pour les réintégrer dans ce tissu, qu'elles soient moins en évidence négative, en quelque sorte, quoi. Et puis enfin, faire évoluer le bâti, faire évoluer par la conquête des combles, par les cœurs d'îlots, par des surélévations. Il s'agissait pour nous de produire du logement capable de concurrencer la production neuve. Et ça, c'est un enjeu majeur pour nos centres anciens. Mais ce projet, il n'aurait jamais pu exister s'il n'y avait pas eu un trépied. Et ça, c'est fondamental, parce que quand on va dans les différentes villes où il y a des plans de sauvegarde, on n'a pas souvent un trépied. On a deux jambes, des fois qu'une seule, mais un trépied, rarement. Le trépied, c'est qui ? C'est la collectivité, c'est le maire, en premier lieu. On a eu la chance de ne connaître que deux maires, la chance, parce que ça veut dire qu'il y a une continuité. Et pour l'essentiel, on a connu Jean Grenet, un petit peu Henri, mais c'est surtout Jean Grenet. En tout cas, avec Alexandre, tant qu'Alexandre travaille à Bayonne, j'entends. Et puis l'architecte des bâtiments de France, les architectes des bâtiments de France qui se sont inscrits dans ce projet. Ce n'est pas du tout évident non plus. Je me souviens d'Anne Mangin-Payen, qui restait assez longtemps à Bayonne et qui, quand on visitait des immeubles, on était sur un toit d'ailleurs, rue Orbe, et elle disait « Il faut que j'oublie tout et que je recommence ». Voilà, il s'agissait aussi de repenser différemment, d'être capable de modifier ces logiciels. La collectivité également, bien évidemment, les élus, les services. Et c'est cette cohésion qui a été manifestée en permanence qui a permis le succès de l'évolution de la ville et que le projet soit finalement accepté par les citoyens. Pour ceux qui se souviennent, la première nuit du patrimoine, je ne sais pas si vous vous souvenez de la première nuit du patrimoine, mais c'était quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Des gens qui écoutaient la présentation de curetage rue Lagréou en étant près de la cathédrale. C'était quand même quelque chose d'assez... Et qui ne bronchait pas, qui écoutait. Non, c'était assez extraordinaire, quoi. Alors, cela étant, il nous faut remonter à l'avenue d'Alexandre. Pourquoi Alexandre est venu à Bayonne ? Le plan de sauvegarde était prescrit en 1975. Il a été confié à l'époque à un chargé d'études qui était un architecte en chef des monuments historiques. À l'époque, c'était souvent le cas, c'était pratiquement tout le temps le cas. Et que cet architecte, comme tous les architectes des monuments historiques de l'époque, était très conservateur, n'avait aucune culture urbaine, donc avait une vision de protection du patrimoine, mais pas cette culture de la dynamique du patrimoine, détestait le 19e siècle, par ailleurs. Et donc, la ville de Bayonne, en tout cas le plan qui était en cours d'élaboration, les élus le percevaient comme étant extrêmement conservateur et incapable d'évoluer, parce que les élus connaissaient, ce matin j'ai discuté avec un des élus, connaissaient bien la situation, ce tissu étroit, dense, dans lequel il y a de grosses difficultés pour habiter. Mais comment on fait et qu'est-ce qu'on avait comme retour, comme expérience? La Plachotte, quelques immeubles démolis pour faire la Plachotte. L'actuelle médiathèque, quelques immeubles démolis pour faire l'espace devant la médiathèque, et la place Montaud, quelques immeubles démolis pour faire un espace vide. Donc, en dehors de casser des îlots, qui n'est pas une opération de construction urbaine, et qu'est-ce qu'on fait ? C'est un petit peu ça. Et on ne voyait rien d'autre, quoi. Donc, finalement, la situation s'est bloquée et l'architecte en chef en question est parti à la retraite. En 1985, donc, la ville participe à un projet de quartier, qui est une opération que l'État proposait à l'époque, sur la partie sud du Grand Bayonne, au-delà de la cathédrale, entre la cathédrale et les remparts et la rue Tour de Sceaux, et commissionne donc un bureau d'études et demande à ce bureau d'études de faire un regard critique sur le projet plan de sauvegarde. Alexandre arrive et il nous dit des choses qui nous convenaient parfaitement, ou en tout cas, on n'entendait que ce qu'on voulait bien entendre, et ce qu'il disait nous convenait parfaitement. Donc un regard assez critique sur ce plan de sauvegarde, extrême densité, dédensification nécessaire, qualité, modification de la sociologie, évolution en tout cas de la sociologie, etc., etc. Curetage, démolition, alors moi, que ça veut dire curetage, voilà. Et on était plutôt contents, on se disait, super, si lui dit ça, ça veut dire qu'on va pouvoir modifier la règle du jeu, et ça nous va bien. Le temps passe, 5 ans après, le ministère revient, il dit, mais qu'est-ce que vous faites ? Ben, rien, on attend. On attend quoi ? Ben, on attend que les choses évoluent. Écoutez, moi, je connais quelqu'un, Alexandre Nissinos peut vous dire, ah, on dit, nous, ça va très bien, il va nous libérer du carcan de ce plan de sauvegarde, il va lever les contraintes, ça va nous aller parfaitement. Et il arrive, et alors il fait un travail extraordinaire. Là, c'est quelques extraits. Son travail mériterait une publication. Le rapport de présentation de l'étude du plan de sauvegarde mériterait une publication. Messieurs et mesdames les élus qui sont présents ou qui ne sont pas là, si, bonjour, je ne vous avais pas vu, mériterait vraiment une publication, j'insiste lourdement, pardonnez-moi. Voilà, quelques. Ça a été beaucoup plus vite, hein, qu'est-ce qui se passe ? Oui, voilà, quelques exemples du travail qu'il a effectué. Et la ville a découvert son patrimoine, en quelque sorte. Alors, nombre d'entre vous connaissez ce patrimoine-là, mais nombre, encore beaucoup plus nombreux, ne le connaissaient pas. Et donc, les vieux immeubles sont devenus des bâtiments du 15e, du 16e, du 17e, du 18e. Et y compris le 19e, hein, et du coup, in fine, alors que les protections étaient vilipendées, il y avait trop de protections, au final, Alexandre double les protections. Il y a deux fois plus d'immeubles protégés sous Alexandre, si j'ose dire, qu'avant, ce qui n'empêche pas qu'aujourd'hui la ville a pu évoluer. Les cages d'escalier, c'est 850 escaliers remarquables, hein, qui nous... On ne parlait plus d'escaliers en bois mal fichus, ébranlants, mais jusqu'au XXe siècle, en bas à droite, c'est début XXe. Hein, donc c'est vraiment un savoir-faire des artisans, des charpentiers, des ferronniers, tout au long de l'histoire. Des décors intérieurs aussi, et s'appuyant là-dessus, on pouvait devenir capable de produire du logement de qualité. Très rapidement, Alexandre, c'était quelqu'un qui avait une force de conviction, pour ceux qui l'ont connu, qui l'ont fréquenté, un diplomate, un peu de rouerie aussi, de temps en temps, mais quelqu'un de très persuasif, en tout cas, de très posé, mais de très persuasif. Et il a convaincu rapidement le ministère de ne pas faire une modification, mais une révision complète, ce qui finalement convenait au ministère, parce que ça permettait d'avoir un document beaucoup plus à jour juridiquement et puis dans la philosophie de la protection du moment. Et puis pour les élus de Bayonne, c'était de se dire, dans 3-5 ans, le plan de sauvegarde est approuvé, il est fini, et donc j'ai enfin un document, je sais de quoi je peux pouvoir travailler. Et donc on a commencé là un travail entre 92 et 93, qui devait durer 3 ans et qui a duré 17 ans. Il a duré 17 ans, en tout cas, les missions d'Alexandre qui sont prolongées au-delà de 2006, puisque le plan de sauvegarde a été prouvé en 2006. Et entre 1993 et 2006, en fait, il a été appliqué, de fait, par des négociations, par des expériences, par des investisseurs qui sont venus, qui ont accepté de suivre les recommandations que voyait le plan de sauvegarde. La première opération, c'était à la Plachotte, la place Plachotte. Et là, elle était vraiment... C'est un curetage de cœur d'îlot, une restructuration de cœur d'îlot qui a permis une des opérations sur des propriétaires investisseurs, mais également de bonifier des riverains, des voisins qui ont pu profiter du curetage, donc de ce trou en cœur d'îlot aménagé. Et donc ça a été vraiment Jean Grenet venait d'arriver pratiquement à ce moment-là pour succéder à son père. Et du coup, ça a été la première expérience qu'il a vécue en direct. Et il y avait des investisseurs qui disaient, monsieur le maire, si vous continuez cette politique-là, on reste là, on vient, on va continuer à investir. Donc c'était vraiment l'effet déclenchant et qui a prouvé. Moi, je me souviens, quand on allait avec Alexandre voir des immeubles où il y avait des servitudes de curetage, plus personne, au bout de quelques temps, nous ne gérons rien, plus personne ne contestait la pertinence du curetage. Simplement, on nous disait, ouais, vous avez vachement raison, mais vous ne pourriez pas le faire dans l'immeuble à côté, s'il vous plaît, ça nous arrangerait. Mais ce n'était plus contesté du tout. Et quand il y a eu une enquête publique en 2006, il n'y a eu que 3 observations, 2 erronées et une qui était fondée, alors qu'il y a plus de 100 bâtiments avec des curetages. Donc c'était rentré dans les mœurs, et c'est le temps qu'on a passé a permis de faire de ce secteur sauvegardé, de ce plan de sauvegarde, un laboratoire de reconquête et de mise en valeur nationalement reconnue. Je continue à avoir la chance de continuer à travailler de temps en temps avec Cité Styrema Cap de France, dont à nouveau Bayonne est vice-président. Et je rencontre des villes ou des territoires ou les ministères où on parle encore de Bayonne comme étant un lieu de référence. Alexandre, donc, là aussi, bien sûr, des capacités d'évolution et de construction neuve. Ça, c'est pas pour de l'ego, mais c'est parce qu'il n'a eu de cesse, Alexandre, que de nous associer, d'associer tous les acteurs. C'était quand même quelqu'un qui a été fédérateur. Et c'était des échanges permanents, des discussions fréquentes sur le projet, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est ce qu'il faut faire, des formations avec des artisans. On a beaucoup appris des artisans. On a appris sans aucun doute aux artisans, mais on a beaucoup appris des artisans. Ça a été extrêmement riche. Ça a permis de rectifier des pistes qui n'étaient pas les bonnes. Et des opérateurs également. L'idée était de fédérer en quelque sorte là aussi, mais dans des opérations, des équipes de maîtrise d'œuvre avec des architectes, des bureaux d'études, des bureaux de contrôle qui avaient la même vision des choses et des artisans, de façon à ce qu'effectivement, ils ne soient pas en train d'appliquer mécaniquement et bêtement des réglementations, mais qu'ils en comprennent l'esprit et qu'ils restaurent avec les besoins de ce tissu. La boutique du patrimoine et de l'habitat, de la rue Poissonnerie, et de l'habitat, puisque c'était bien volontaire à cette appellation pour que l'on montre bien que l'habitat était indissociable de sa valorisation patrimoniale. Également, un travail qu'Alexandre faisait avec nous, mais dont il était moteur, de discussion avec les opérateurs, que ce soit des monteurs d'opérations, soit des architectes, sur les projets, on passait plusieurs moments, soit sur place, soit dans le bureau, à réfléchir ensemble sur comment faire le mieux possible ou le moins mal possible des restaurations. Et puis l'idée que... Alors, vous voyez Bayonne aujourd'hui, avec le niveau de qualité qu'il a aujourd'hui, mais repenser dans quel état nous étions dans les années 90. Il ne s'agissait pas de passer d'un niveau bas à un niveau d'excellence du jour au lendemain, mais être capable de monter progressivement, que tous les acteurs soient capables de monter progressivement, à leur manière, à leur façon, et donc une bienveillance aussi très forte par rapport aux gens qui acceptaient de jouer le jeu. Alors je cite souvent un exemple, monsieur ou madame, dans votre cage d'escalier 17e, mettez une porte palière 17e. On me dit, mais quoi, qu'est-ce que ça veut dire? Porte palière 17e, c'est 3 planches à joints vifs, avec 2 traverses arrondies, ou c'est des portes à panneaux. Donc voilà, c'est cette capacité-là, je dirais, de variante qui a été proposée et qui a été, je pense, quelque chose de très fort avec le trépied dont j'ai parlé dans les capacités de faire d'Alexandre. Dans un article du Monument à la Ville, une nouveauté dans le monde du patrimoine, Alexandre justifie l'intérêt de protéger la ville ancienne comme un monument urbain par 3 constats. Le premier, les villes anciennes sont rares. Il avait fait une étude en 1968 sur 727 métropoles, et à cette époque-là, les centres anciens représentaient 3,2% de la surface urbanisée. En 1990, 1,2%. J'imagine qu'aujourd'hui, ce pourcentage est encore plus faible, ce qui veut dire que ce tissu est fragile. Ce n'est presque plus rien dans un ensemble urbain. Mais par contre, il est important, puisque la ville ancienne est rare, mais elle est aussi signifiante. Quand les gens font référence à Bayonne, ils ne font pas référence au lotissement de la périphérie. Peut-être au Grand Bayonne, quand même, peut-être à Marac, mais essentiellement, Grand Bayonne, Petit Bayonne, Saint-Esprit. Donc si ça, ça disparaît, c'est le visage de la ville qui disparaît. Et cette signification, elle est aussi fondamentale. La troisième, c'est qu'on ne sait pas refaire de la ville. La ville ancienne n'est pas reproductible. On peut faire des pâles copies, mais on ne sait pas refaire de la ville avec toute sa complexité, sa qualité, etc. Et donc, signification, rareté, non-reproductibilité, pardon, ça caractérise un monument. L'ensemble urbain de Bayonne est un monument, même si chaque maison, chaque immeuble en tant que tel n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Alexandre a proposé de faire du plan de sauvegarde mis en valeur un document d'urbanisme opérationnel permettant d'aider le centre ancien à sortir de ses difficultés. Lors de la dernière commission locale d'octobre, je crois, à laquelle j'ai participé, quand on a pris avec Alexandre le plan de sauvegarde en cours, donc sur le Grand Bayonne et le Petit Bayonne, à l'époque, il y avait 25% de logements vacants. Aujourd'hui, d'après les collègues, on serait tombé à 8%. Ce qui signifie très clairement qu'il y a une reconquête du centre et de l'aveu même de ces collègues qui n'ont pas connu, qui ne m'ont pas connu et qui n'ont pas connu non plus Alexandre, a fortiori, c'est grâce au document d'urbanisme qui a été produit par Alexandre Mélissinos que les opérations que vous connaissez aujourd'hui, type Victor Hugo, hein, par exemple, sont possibles. Et ça fait 20 ans et ça n'a pas changé et c'est toujours d'actualité et c'est toujours un document vivant. C'est quand même, je pense, un très bel hommage que rendaient ainsi les services à Alexandre. Enfin, pour en terminer, il a aussi travaillé ailleurs et notamment à Carcassonne. Carcassonne, à l'époque, était à Cahors, dans l'association. On avait un élu qui était très engagé dans cette cité, je veux dire. Hein. Et donc, on parlait d'Alexandre, etc. Et donc, il y a eu un appel d'offres et Alexandre était retenu. Et un soir, le maire de Cahors me dit « On a fait une bêtise, là. On a pris un vieux. Je suis très inquiet. » Mais je lui dis « Vous inquiétez pas, vous allez voir. Non, non. Vous m'avez baratiné, mais ça ne va pas se faire. » Et quand Alexandre est décédé, le maire a dit « Son regard aiguisé, sa capacité à mettre en perspective sa culture, sa culture autant que ses compétences, furent un soutien précieux. Mettre en valeur le patrimoine bâti, lui permettre d'évoluer pour s'adapter, aider les Cadurciens eux-mêmes à s'approprier ses richesses, parfois insoupçonnées, constituent quelques-uns de ses enseignements. » Merci.
Alexandre Mélissinos, révélateur du patrimoine bayonnais, venait de suivre l'intervention de Jacques Cruchon, consultant en urbanisme et patrimoine de l'association Bayonne Centre Ancien. Et voici maintenant le mot de conclusion de la présidente de la SSLA, Josette Ponté.
La journée se termine, elle clôture deux jours de travaux intensifs, mais je crois fructueux et agréables. Et de toute façon, je pense que nous avons illustré véritablement la devise de la société, Société des Lettres. Nous avons évoqué effectivement des écrivains, des correspondants d'écrivains. Nous avons évoqué également des arts, la musique, le musée, les différentes... conception de l'orgue, des organistes. Nous avons ensuite lettres et arts, je l'ai dit, le musée. Et bien entendu, les lettres, c'est évidemment l'histoire. Parce que le doctorat moi, que j'ai passé est un doctorat S-lettres. La mention histoire est comprise dans les lettres et ce que l'on oublie parfois. Aujourd'hui, parce qu'on a fragmenté en doctorat d'histoire, doctorat de lettres, mais l'étymologie profonde de l'université, c'est d'être une université des lettres, donc ça inclut tout. Et nous avons eu la chance, en plus, d'avoir la vision de la société française, la nôtre, celle de Dax, de également... que j'allais oublier, de Périgueux, que je n'oublierai pas, et nous avons été transportés jusqu'aux confins de nos horizons, le Cantal. Et donc, nous avons fait un périple complet du côté du nord de la France et nous avons, pour la première fois, descendu au-delà de la frontière et nous avons accueilli vraiment avec un très grand plaisir et en souhaitant, bien entendu, que ça se renouvelle, nos amis des sociétés savantes de l'autre côté donc des Pyrénées. Et je vais laisser la parole à sa représentante, une de ses représentantes, qui va aussi vous dire quelques mots de conclusion. On avait prévu peut-être une discussion générale, mais je crains qu'elle soit peut-être un peu superflue, parce que nous avons déjà discuté pas mal à chaque moment, et je pense qu'il est peut-être bon de conclure avant de se retrouver pour une conclusion finale avec l'édile majeur de la ville. Donc, je vais laisser la parole à Amélia qui va nous dire quelques mots, je crois, pour aussi faire part de ses sentiments. Je vous remercie en tous les cas à tous. Bien entendu, d'abord les communicants, les intervenants, parce qu'ils nous ont apporté le fruit de leur réflexion, de leur savoir, y compris sur le terrain, avec la dernière communication que nous avons entendue. Et je crois que c'était quelque chose de très riche, dont les actes pourront tenir compte et proposer un souvenir durable de ces deux journées que j'espère mémorables.
Vous venez d'entendre Josette Ponté, présidente de la Société des sciences, lettres et arts de Bayonne. Les 150 ans de la Société des sciences, lettres et arts de Bayonne, société savante et personnalité régionale. Rencontre scientifique organisée par la Société des sciences, lettres et arts de Bayonne à l'occasion du 150e anniversaire de sa fondation, novembre 1873, novembre 2023, avec le concours de la ville de Bayonne. Les 150 ans de la SSLA à la Maison des associations de Bayonne, les 22 et 23 novembre 2023. Retrouvez toutes les interventions sur le site internet de Radio Lapourdie, www.lapourdie.net.